Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la seconde partie d'Okapi Service. Accouchement, que doit savoir une femme enceinte avant d'arriver en salle de travail? C'est les sujets que nous abordons aujourd'hui avec Dr Yolande Capinde, gynécologue, obstétricienne, secrétaire générale dans plusieurs sociétés savantes nationales et internationales, publiques tout comme privées. Le 0 85 42 11 547, c'est notre numéro de téléphone. Si vous souhaitez participer à cette émission, vous pouvez également nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Benjamin Moudoumbi réalise cette émission. Jody Daniel Kachama la coordonne. Alain Goy est à la mise en onde et Esther Mamboté assure le live sur nos plateformes numériques. Je suis Jocelyne Moussaou-Pondé.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Ces derniers jours, une actualité a relancé le débat sur les conditions d'accouchement dans certaines structures de santé en République démocratique du Congo. Au-delà de l'émotion suscitée, cette situation met en lumière une question essentielle, celle de la préparation des femmes enceintes à l'accouchement. En effet, la grossesse et l'accouchement sont des moments à la fois naturels et sensibles qui nécessitent un accompagnement médical, mais aussi une bonne information des futures mamans. Une femme enceinte bien préparée comprend mieux les étapes du travail, collabore plus facilement avec le personnel soignant et peut ainsi réduire certains risques ou tensions en salle d'accouchement. Mais dans la réalité, beaucoup de femmes arrivent à la maternité sans avoir reçu toutes les informations nécessaires. Alors, que doit savoir une femme enceinte avant d'arriver en salle de travail? Comment mieux préparer les futures mamans pour un accouchement plus sûr et plus serein? Et pour en parler, je l'ai dit, nous recevons Dr Yolande Capinde. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Jocelyne.
Et pour commencer, docteur, pourquoi il est important pour une femme enceinte de se préparer à l'accouchement?
Alors, c'est une excellente question et elle vaut la peine d'être abordée. Une femme enceinte, non seulement que c'est un état, nous on dit un état physiologique, ça veut dire un état normal qui prendra un temps bien précis, ou pas, ça dépend, mais qui certainement doit aboutir à la fin de ce processus qui est l'accouchement. Mmh. Et donc, s'il y a un accouchement qui vient après une grossesse, ça veut dire qu'il y a un temps de préparation, un temps qui demande à ce que cette dame sache comment je vais accoucher, où je vais accoucher, et qu'est-ce qui sera fait sur moi. Mmh. Donc, c'est très important et j'apprécie le sujet.
Et ces femmes, sont-elles suffisamment informées? Alors, préparer à la maternité, comment on les prépare?
Voilà. Si c'est une femme qui a réellement suivi ses consultations prénatales, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour une bonne préparation, ça veut dire qu'elle a eu le temps d'avoir ce qu'on appelle une éducation sanitaire. Aujourd'hui, dans les sociétés obstétricales ou gynécologiques ensemble décident de faire ce qu'on appelle les soins maternels respectueux, et dans lesquels on recadre encore davantage comment l'on prépare ces dames, non seulement comment on les prend en charge lors de leur grossesse, pendant leur grossesse, mais aussi comment elles doivent accoucher. C'est très important qu'une femme puisse déjà, au cours, à la fin de sa grossesse, donc au dernier trimestre, savoir comment je vais accoucher et qu'est-ce qui sera fait. Et cela se fait au moment de l'éducation sanitaire qui s'est fait souvent dans beaucoup de maternités ou dans beaucoup de centres de santé, parce qu'il y a des centres de santé qui ne sont pas habilités à accoucher, mais au moins qui préparent les dames pour l'accouchement et les orientent au moment opportun vers les salles des naissances.
Et quelles sont les informations qu'on donne par exemple à ces femmes qui vont accoucher?
Alors, premièrement, déjà, on leur dit comment elles doivent se comporter lors de leur accueil dans la salle de naissance ou la salle d'accouchement. Donc, ils partent d'abord de l'accueil. Qu'est-ce qu'elles doivent apporter avec elles au moment de cet accouchement et comment elles peuvent alors se comporter selon le rythme de l'évolution de l'accouchement. Donc, il y va même de l'éducation sur la position, sur comment elle va respirer, comment elle va se comporter si la douleur est plus intense, et qui doit-elle appeler. Et au besoin, parce qu'on parle de soins maternels respectueux et même humanisés, on leur propose de se faire accompagner par la personne de leur choix. La personne qui pourrait peut-être les assister ou les rassurer au cas où il y a une douleur plus intense ou certaines préoccupations. Donc c'est très important d'en parler.
Mais il y a des structures hein, qui n'organisent pas, qui ne dispensent pas ces enseignements-là. On le voit souvent dans les structures publiques, hein, mais dans les privés, ce sont plutôt les médecins qui s'en chargent.
Exactement. Mmh. Et alors, puisque le médecin sera la personne responsable de pouvoir préparer cette dame, et ben le médecin fait le rôle de l'éducateur à ce moment-là. Mmh. Il a l'obligation de dire, ok, nous allons bientôt aboutir, voilà ce que vous devez avoir sur vous, voilà ce que vous devez préparer, et ailleurs, ce qu'ils font d'ailleurs, c'est carrément une liste bien préparée, où on a le besoin du bébé, le besoin de la maman, et quelques conseils qu'elle pourra apporter. Mais ce qui est important, c'est peut-être aussi recommander à ces centres, à ces structures privées, de mettre en place justement ces éducations, cette plateforme sur l'éducation sanitaire, parce qu'elle est très très importante pour toutes. Et il y en a effectivement beaucoup qui viennent qui disent que je n'ai pas appris qu'il fallait ceci, je n'ai pas appris qu'il fallait apprêter telle ou telle autre chose, surtout s'il est en privé qu'il décide d'aller accoucher en public ou parfois l'enseignement est fait et donc l'accueil devient assez compliqué.
Savoir ce qu'il faut apporter, les nécessaires pour le bébé, pour la maman, c'est nécessaire, mais comment se passe le travail, les étapes même du travail? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle de la douleur que peut ressentir la femme qui est en plein travail?
Alors, avant même d'arriver à la douleur, n'est-ce pas, on est devant une grossesse qui est à terme. Ça veut dire que la femme est prête. On va lui dire d'abord quels sont les signes qu'elle doit rencontrer.
Et quels sont les signes, justement?
Voilà. Les signes sont multiples. Premièrement, toutes les femmes ne verront pas des signes. Voilà. Donc, il y aura une partie des femmes qui en verront et d'autres qui ne verront pas.
Les signes qui annoncent les débuts du travail.
Voilà. Donc, premièrement, il faudrait qu'on leur assure lors des dernières consultations savoir plus ou moins quand est-ce que cette femme accouche. Et on prépare la dame. Parce qu'on a vu des dames qui ne sont pas venues à la maternité simplement parce qu'elles ont dit qu'elles attendaient les signes. Mais si la grossesse est déjà à terme, vous venez au rendez-vous et le médecin pourrait décider de quand elle vous déclenche. Ça veut dire qu'elle vous prépare pour un accouchement forcé. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, mais pour d'autres, on va leur demander de surveiller les signes qui pourraient survenir à la fin de la grossesse. Il peut arriver que ça soit une perte de eau, donc la femme voit de l'eau, on lui explique un peu quel est ce rythme-là, qu'est-ce qu'elle voit exactement, parce qu'il y a la perte du bouchon muqueux, qui est juste la sorte de bouchon ou de
protection,
ou même de muqueux, de mucus, hein, ça veut dire une sorte de colle, voilà, une sorte de colle qui était au niveau du col, donc la colle collante au niveau du col de l'utérus, qui permettait à ce que la partie qui est interne, donc la grossesse, soit protégée. Alors, parfois, ce bouchon, quand il part, il peut sembler représenté comme un liquide. C'est un liquide assez particulier, donc on ne va pas le comparer ou le confondre avec le liquide amniotique. Et une fois qu'on perd le liquide amniotique, eh ben, on se rend à l'hôpital. Alors, il peut arriver qu'on n'ait pas tout ça et qu'on ait, par exemple, juste des douleurs. Des douleurs qui sont assez rudes, donc un peu plus inhabituelles. Eh ben, vous allez à l'hôpital. Mais le pire, c'est quand vous saignez. Toute femme qui saigne en dernière partie de la grossesse, ça veut dire que là, déjà, il y a un problème. Ça peut être un problème banal, un bouchon muqueux simplement, mais ça peut être un problème très grave qui pourrait entraver la vie de la femme et donc elle va rapidement vers la salle de naissance. Et bien entendu, il y a d'autres signes hein, qu'on fait voir aux dames, les jambes qui gonflent un peu trop, les bébés qui ne bougent pas beaucoup ou qui ne bougent pas du tout. Et donc, ce sont ces éléments-là qui vont obliger la femme à aller en salle de naissance en fin de grossesse.
Et parlons du travail, de l'accouchement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ces différentes étapes?
Voilà, de manière très simple. Quand la dame arrive, bien sûr, elle vient en début de travail pour la plupart de cas. Et dès que le travail s'installe, parce qu'elle peut arriver en faux début de travail, et donc là, on ne parle pas du tout du travail, mais dès lors que le travail s'installe, ça veut dire qu'on est en phase active. C'est-à-dire que cette dame a déjà dépassé l'ouverture du col, de l'orifice du col. On est autour, par exemple, on va dire de 4 cm ou 5 cm, d'ailleurs, c'est l'idéal. On parle de travail effectif. Mmh. Et donc, la première étape de ce travail, nous parlons de l'effacement et dilatation. Donc, le col commence par s'ouvrir grâce aux contractions utérines que présenterait la femme. Et une fois que ces contractions doivent être aussi régulières, tolérables dans le sens, bon, tolérables, on ne va pas dire comme ça, mais intenses. Et une fois qu'elles avancent et que c'est bien régulier, que tout se passe bien, après ce moment-là, la descente du bébé. Le bébé descend, il s'appuie sur le col, et c'est ce qu'on appelle cette phase de descente. Et à ce moment-là, on peut soit rompre de manière artificielle la poche de zoo, ou alors elle se rompt spontanément. Et une fois que cette phase de descente s'amorce, on a la phase d'expulsion. Donc la dilatation, elle est complète. Le bébé est déjà au niveau du col. Mmh. Elle a poussé, les poussées s'effondrent encore de manière plus intensive grâce aux contractions. Mmh. La dame elle-même aussi pousse. Si on a une petite perfusion, elle aide encore davantage à la pousser. Mmh. Et bien, l'expulsion se fera. Et à la fin, on attend la délivrance. Donc, dès lors, on n'a pas encore eu notre placenta. Mmh. L'accouchement n'est pas encore terminé.
Mmh. Même si le bébé est déjà là.
Mais bien sûr, le bébé, il doit sortir. Mmh. Ce placenta, s'il reste dans la cavité utérine, donc dans la matrice, elle va être responsable d'un saignement qui pourrait emporter cette maman. Mmh. Donc, il faudra s'assurer dans un délai décrit et limité que le placenta devrait partir. Et pour cela, il y a des mesures qui sont prises pour aider que le placenta sorte dans les conditions requises.
Et pendant ce temps, quelle doit être l'attitude de cette femme en salle de travail pour une bonne prise en charge?
Aujourd'hui, puisqu'on parle de soins maternels respectueux et même associés les soins humanisés. À l'époque, quand nous commençons cette médecine, on obligeait par exemple la dame à rester tout à fait au repos, tranquille, immobile, sur son lit, en train d'attendre que les choses s'effacent. Aujourd'hui, on demande à la dame de se mobiliser. Mmh. Cette dame doit pouvoir se mettre à son aise. Ailleurs, même, on demande que la dame fasse la position qui lui plaît. C'est comme ça qu'on parle de l'accouchement à style libre dans d'autres contrées. C'est-à-dire que vous allez trouver dans une salle de naissance un tatami bien approprié. Vous allez trouver une balançoire.
Okay.
Vous allez trouver un ballon. C'est-à-dire que des conditions qui lui permettent vraiment de se sentir à l'aise et même parfois une petite bassine.
Être détendue.
Une piscine, voilà. Mm-hmm. Donc, elle se met dans la position où qu'elle veut et son accompagnant, qui peut être son époux, elle peut s'agripper sur lui, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais vous comprenez, c'est quand vous avez une belle salle de naissance, grande salle de naissance.
Tout à fait.
Et que vous n'avez pas beaucoup de monde. Mm-hmm. Donc, imaginez, vous avez 10 femmes et vous avez cette situation, vous comprenez que les sécrétions vont se mélanger. Alors, qu'est-ce qui se passe? On leur demande d'occuper un espace bien précis. Ici, ça veut dire autour de leur lit, se lever de temps en temps, tourner, se mettre sur une chaise et compter, par exemple, pour les distraire, compter les mouvements du bébé. Mmh. Ça permet à ce qu'elles soient attentives. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons aussi des femmes qui ne supporteront pas forcément cette douleur.
C'est ça, justement.
Voilà.
Et comment on se comporte face aux femmes qui paniquent ou qui résistent carrément?
Alors, c'est là qu'on amène la psychothérapie. Mmh. Donc, la personne qui vous a accueilli doit être en mesure de pouvoir vous expliquer que cela va arriver et que c'est normal. Mmh. Et aussi lui dire que l'intensité de douleur peut venir, il faudra soit penser à quelque chose qui vous met à votre aise, ou alors faire tout ce que vous pouvez, mais au moins être sereine, parce que cela dépendra aussi du mode d'accouchement. Mmh. Donc il y a des conseils comme ça qui peuvent ou ne pas prendre aussi, et on en tient compte. Alors, dans les meilleurs de cas, pour des personnes comme telle, on parle quand même de la péridurale. Mmh. Mais vous comprenez ça, on est dans une structure pour la plupart privée pour faire ce genre de choses.
Mmh. Oui. Mais on parle de structures privées, publiques, mais les femmes rapportent souvent des cas, hein, des femmes sages qui sont pas tout à fait gentilles ou qui comprennent pas l'état, hein, ou la douleur que peut... Enfin, elles le savent parce que c'est leur métier, mais qui veulent pas se plier aux caprices, on va dire, entre guillemets, des femmes en travail.
Voilà. Il y a une manière de procéder parce que devant une femme qui est vraiment dans l'incompréhension totale, il y a une façon dure aussi de le faire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la sage-femme se comporte pratiquement en mère. Mmh. Donc, ça veut dire, une mère, qu'est-ce qu'elle fait devant un enfant qui ne veut pas manger et qu'il est nécessaire qu'elle mange? Elle va lui parler assez gravement pour lui montrer que, mais si tu ne le fais pas, tu ne grandis pas. Donc, c'est cette façon-là d'aborder. Donc, ça n'a rien à voir voir avec la personne elle-même, c'est juste pour essayer de trouver ou d'avoir la solution la plus favorable ou l'issue favorable à ce travail d'accouchement. Mmh. Donc oui, il arrive qu'il y ait parfois ce genre d'écart, mais c'est vraiment, comme on dit, très restreint. Parfois ça passe vite. Alors quand ça va au-delà, quand ça devient un abus, alors là ça devient très compliqué. Ça veut dire que là vraiment ça devient une agression. Et comme il est dit dans les soins respectueux, nous devons pouvoir nous contenir pour ne pas arriver à ce genre d'abus.
Mmh. Voilà. Nous allons prendre un auditeur en ligne. C'est Honoré Chibobwa qui nous appelle depuis la ville de Mbujimayi. Bonjour Honoré Chibobwa.
Bonjour Madame Jocelyne, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Votre contribution à cette émission et vos questions à notre invité.
Oui, Madame Jocelyne, avant que je pose ma seule question, je voulais d'abord vous dire que dans notre pays, la RDC, le constat est vraiment amer à ce qui concerne l'éducation des femmes enceintes. Vous avez entendu des fois qu'il y a même des femmes qui accouchent en cours de route, des fois elles ne connaissent même pas leur date d'accouchement. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Et moi, je trouve que les grands problèmes se trouvent dans les consultations, ce qu'on appelle les consultations prénatales. Les consultations prénatales dans notre pays ne se font pas vraiment de manière à permettre à ce que la femme puisse avoir les informations nécessaires avant qu'elle arrive à la date de son accouchement.
C'est-à-dire?
Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il faut questionner notre système de santé. Aujourd'hui, je donne un exemple dans notre province de Mbujimayi. Nous avons la gratuité de la maternité que nous avons tous applaudi. Mais les personnels là qui travaillent pour la gratuité, ils ont maintenant là 10 mois, ils ne sont pas payés. Madame, imaginez-vous quelqu'un qui fait 10 mois, toi tu viens chaque jour, non c'est gratuit. Vous pensez qu'il va prendre vraiment le temps pour éduquer ces femmes-là? Vous imaginez seulement. Donc, je trouve que c'est un problème, ça ne sera pas possible. Il va chercher seulement à dire non, vous avons consulté, il vous laisse là, il va se débrouiller ailleurs pour pouvoir survivre à ses besoins. Alors, je pose un peu ma question à l'invité. Au regard de tout ce que nous voyons dans notre pays, les femmes ne sont pas éduquées normalement. Que doit faire notre gouvernement ensemble avec les personnels de santé afin de permettre à ce que les femmes, toutes les femmes enceintes, puissent avoir l'accès à une bonne information avant qu'elles arrivent dans la salle d'accouchement? Parce que ce que nous voyons nous montre que vraiment nos femmes ne sont pas éduquées avant qu'elles arrivent dans la salle d'accouchement. Elles ne connaissent rien de ce qui va se passer. Merci.
Merci beaucoup Monsieur Honoré Chibobwa depuis Mbujimayi pour votre question. Nous allons prendre Ismaël Mopoi qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Madame Jocelyne Moussa Pondé. Bonjour à Madame l'invitée.
On vous écoute, Ismaël, pour votre contribution et vos questions.
Merci beaucoup. Je salue la dame pour cette pertinente intervention. J'avais oublié un peu la demander. Quand on médite une femme en travail, par rapport à une multipart et à une primipart, comment on peut initier les bons conseils en vue de séparer les deux, pourvu qu'on ne puisse pas faire un peu la confusion de savoir que l'une ou l'autre peut s'adapter ou connaît carrément les enseignements qu'on leur donne. De deux, que joue aussi le rôle des maris dans un mariage où sa femme est enceinte. Est-ce le mari va aussi tenir compagnie aussi sa femme dans la consultation? Et la dame doit aussi nous préciser à quel moment il doit commencer à suivre sa consultation prénatale. Bon, je parle en termes de trimestre. À quel trimestre une consultation prénatale doit être initiée ou doit être suivie par une femme? J'avais voulu un peu revenir tout par rapport au dégagement des consorts. Nous avons par exemple la BDPPNI, nous avons le PUCENTA PREVIA. Des fois, cette étape la complique pendant la période de la grossesse. Comment on peut faire par exemple le décollement prématuré, normalement inséré du placenta, quand il y a par exemple l'écoulement? Et si à une femme par exemple, primipare, comment elle peut s'adapter? Ou c'est un signe d'alarme, ou c'est un signe qu'on doit prendre avec la légèreté pour la consultation? Mais maintenant, pendant le travail, si à une femme par exemple, la primipare, ne fait rien, cette douleur-là pour elle, c'est comme si c'est l'amour, parce que c'est sa première fois. Maintenant, des fois, dans la salle d'accouchement, vous voyez qu'il y a quand même, bien que mes langues aillent passer au-delà de ce qu'on peut faire, il y a aussi le tapotement aussi de pour l'inciter à ne pas faire mourir l'enfant, soit pour pousser envie qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire la délivrance de l'enfant. Il y a quand même cet geste, ça qui précède la domaine pour dire que l'enfant, est-ce que tout ce que je viens d'énumérer ici, on les apprend aux femmes qui viennent à la consultation? Et puis après aussi, il y a une étape très difficile, très compliquée, la délivrance. En cette période-là, si ça ne vient pas si vite, parce que nous savons, c'est à 5 minutes, si ça tarde, quelles seront maintenant les conduites à tenir des infirmiers ou le médecin qui dirige ou les femmes qu'on appelle
sage-femme.
Le matron qui dirige un peu le matron qui dirige l'accouchement. Est-ce que leur regard vis-à-vis de cela peut inquiéter la partie cliente ou peut m'aider à rester sereine pour ne pas se troubler que maintenant c'est la mort? Si seulement si les femmes sont bien équipées ou ils ont eu une formation, quels sont d'autres mécanismes à faire si les femmes n'ont pas parvenu à suivre leurs consultations comme il se doit et si les complications déclenchent? À qui on peut attribuer la faute? Je pense que c'est ce que j'avais à dire. Mais quelque chose aussi, je pense que les matrones aussi, les femmes, et les femmes aussi, sont passées aussi par cette douleur-là. Quel sera un peu leur regard vis-à-vis à ceux qui semblent, parce qu'elles connaissent bien la douleur d'accouchement. Quel sera quand même les questions d'éducation à instruire à toutes les femmes qui endurent un peu la douleur d'accouchement pendant le travail? Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup, Ismaël Mupoi. Vous nous avez appelé depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, docteur Yolande Kapinde. Qu'est-ce que vous répondez à Ismaël qui parle de traitement de primipare, multipare, le rôle du mari, l'attitude voilà.
On commence par monsieur Honoré Tshibobwa.
Oui. Vous
appelez de Mbujimaï. Je suis ravi que nous soyons suivis au-delà de Kinshasa où nous sommes. Alors, quel est le rôle du gouvernement face à cette situation
pour assurer
un accès
à une bonne information?
Alors déjà, il faut s'assurer que toutes ces zones de santé, ces centres de santé sont capables d'avoir un personnel qualifié et compétent pour le faire. Donc ça veut dire qu'il faudra penser au renforcement des capacités. Je crois qu'il y a eu à un moment donné le PNCR et la Société Congolaise de Gynéco-Obstétrique a parlé des SONU, ça veut dire de soins obstétrico-néonatales d'urgence. C'était quelque chose qui était prévu pour pouvoir essaimer de par les provinces, les différentes provinces, et malheureusement la guerre ne nous a pas facilité les choses, mais en tout cas cela a été fait. Mais comme on dit, c'est des formations en cascade, ça veut dire que quand on forme une partie de prestataires, ces prestataires ont l'obligation de transmettre la même information à d'autres personnel pour que cela soit essaimé. Et malheureusement, comme Honoré le dit si bien, il y a cette démotivation. Ça veut dire que toute personne qui vient à son lieu de travail s'attend à pouvoir être rémunérée. Et dès lors qu'il y a un retard de paiement, il y a une attitude qui peut changer et modifier le comportement de ses prestataires. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait à ce moment-là? Ben, il doit corriger. Le gouvernement doit trouver le moyen de pouvoir pallier à cette situation. Parce que si ça ne s'est fait pas, eh ben, on aura plutôt un échec dans ce programme si bien prôné et si cher au chef de l'État, parce qu'il n'est pas suivi comme il se doit. Donc, lui, il a donné son ordre, les injonctions ont été faites, mais malheureusement, si la base et les personnes impliquées ne se sentent pas concernées, eh ben, ça ne va pas marcher. Alors, maintenant, autre chose, il y a la carte de CEPEN. Alors, mettre à disposition la carte de CEPEN, ça veut dire qu'on ait ces outils partout, dans toute la République, dans tous les centres de santé, que l'on remettra à la dame. Parce que quand il dit que parfois les dames ne savent même pas c'est quand leur accouchement, mais une carte de CEPEN donnera plus d'informations. Moi, je dis toujours aux dames que la carte de CEPEN, dès lors qu'elles sont enceintes, remplace même leur passeport. Parce que sur cette carte de CEPEN, non seulement se trouve l'adresse de cette dame, le centre de santé où les soins sont suivis, mais le nom du partenaire et le numéro de téléphone. Donc, dès lors qu'il y a un accident ou un incident, cette dame peut facilement être repérée et orientée et prise en charge. Je leur dis toujours ça et je ne cesse de répéter. Et sur cette même carte, il y a des informations très importantes sur l'âge de la grossesse et sur le terme probable de l'accouchement. Donc déjà, ça, c'est suffisant pour aider la personne à savoir qu'elle est à terme ou pas. Alors maintenant, dans les salles d'éducation sanitaire, il y a des affiches. Donc il y en a, aujourd'hui, toutes ces femmes ont des téléphones Android, pour la plupart. Bon, là, je parle quand même des contrées d'accès. C'est-à-dire qu'elles peuvent déjà prendre ne fût-ce qu'en photo certains éléments, un peu parcourir, parce que ce qu'il dit, c'est vrai que l'éducation sanitaire n'est pas dispensée partout et n'est pas dispensée correctement, et malheureusement. Alors, donc, pour Honoré, je pense que c'était ça ses préoccupations. Alors pour Monsieur Ismaël Mopoyoui, la différence entre multipart et primipart en salle, donc déjà primigeste on va dire et multipart, multigeste et multipart, c'est que la multipart a déjà eu plusieurs fois des accouchements. Pas de tous ordres, mais quand même, elle connaît plus ou moins comment ça se passe. C'est plus facile de la gérer qu'une primie qui est un peu surprise de savoir que les choses vont se passer comme ça. Si elle a suivi les CEPEN correctement, les CEPEN consultations prénatales, eh ben, elle a eu quand même à être imprégnée sur le comment pourrait se passer son accouchement, tout en sachant qu'elle pourrait aussi ne pas accoucher normalement. Donc on peut aller d'une eutocie, un accouchement normal, vers une dystocie, un accouchement difficile qui peut nécessiter soit des instruments ou alors passer même à la césarienne. Et ces dames, elles ont cette information des signes de danger qu'il pourrait y avoir. Bon, en salle de travail, c'est la surveillance. Ce qui fait que l'on gagne dans la prise en charge, c'est la surveillance qui est faite régulièrement au moment du travail. Donc ça, ce sont les matrones, les sages-femmes et toutes ces personnes qui vont faire. Donc c'est vrai qu'on ne les suit pas tellement de la même façon, parce que même la durée des travail n'est pas même. La multipart peut arriver à 2 cm et vous accoucher en moins de 5 heures, et la primipart peut vous arriver à 2 cm et accoucher 2 jours après. Donc il y a des dispositions qui sont prises et des informations qui sont données au regard. Alors, quel est le rôle du mari? Je pense que je l'ai dit ici, qu'aujourd'hui avec les soins maternels respectueux, on recommande que les conjoints accompagnent. Si le conjoint n'est pas disponible, la belle-mère, la belle-sœur, la mère, la sœur, bon bref, la personne de choix de la gestante. La gestante, ça veut dire la femme enceinte. Alors, une fois en salle de travail et en travail, elle devient une parturiente, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce mari, lors de ses peines, va pouvoir entendre exactement quelles sont les informations qu'il pourrait garder aussi pour aider la femme et répéter à la maison. C'est comme un cours. C'est une éducation sanitaire, ça veut dire qu'il y a des messages qui passent que vous pouvez noter et vous poser de questions après. Mais aussi, il y a des examens qui peuvent se faire à la fois sur le mari et qui sont demandés aussi à la femme. Par exemple, une primie ou même une multipart, on peut leur demander de faire un test VIH. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans la prévention, la transmission du VIH à l'enfant. Donc, il faudrait déjà savoir s'il n'y a pas peut-être cette pathologie ou encore le syphilis, c'est ce qu'on recadre, et bien sûr le vaccin pour la mère. Donc, ce sont des choses pour lesquelles le mari a un gros rôle à jouer pour pouvoir pouvoir aider son épouse. Mmh. Et la grossesse, c'est une question de partenariat. C'est, la grossesse ne vient pas seule, elle vient donc avec le mari. Il a un rôle très fondamental. Alors, les consultations prénatales, quand ? Les consultations prénatales, normalement, commencent au deuxième trimestre et pratiquement à la fin du deuxième trimestre, on va dire, autour de... en milieu du deuxième trimestre. Donc les bonnes consultations prénatales, c'est autour de 4 mois. On est à 16, 17, 18 semaines, on commence ces consultations prénatales. Mais attention, il y a une consultation qui demande qui soit faite un peu plus tôt, qui permet à ce que le médecin puisse s'assurer que c'est une grossesse qui évolue normalement, que c'est une grossesse unique et c'est une grossesse qui est bien située. Et ça, c'est le premier trimestre. Une fois que vous avez fait votre examen ou consultation de premier trimestre, que ça a été mis en place, eh ben, vous pouvez aller vous balader et revenir autour de 18, 19, même 20 semaines. Et à ce moment-là, les consultations peuvent commencer. Et là, bien sûr, avec 4 consultations comme on le prône aujourd'hui, il est possible de pouvoir mener la grossesse jusqu'à terme sans souci, mais dès lors qu'on trouve que c'est une grossesse à problème, eh ben les consultations, le nombre de consultations vont changer, bien sûr. C'est multiplié. Alors, il a parlé des DPPNI, placenta previa, tout ça. J'ai parlé des
en termes simples,
des hémorragies du poste de hémorragie du troisième trimestre. Une femme qui saigne, je venais de le dire ici, ça peut paraître anodin, mais ça peut être aussi très grave et dramatique. On perd ou la mère ou l'enfant, ou même les deux. Alors, donc, DPPNI, c'est ce qu'on appelle un décollement d'un placenta normalement inséré. Ça veut dire que la dame est calme, et puis dans un ciel serein, elle se plaint, elle se tord de douleur, elle vient avec un saignement. Et parfois, on n'entend plus le bébé. Parce que si le placenta est décollé, il n'y a plus de contact entre la mère et l'enfant dans le sens de la transfusion donc maternelle, materno-fœtale, eh ben, le bébé ne survit pas. Le bébé meurt dans le ventre, mais malheureusement, cet hématome ou ce sang qui va se collecter entre le placenta et l'utérus de la maman va devenir une complication pour la mère. Parce qu'elle va se vider, non seulement elle se serait vidée de son sang, mais elle va développer ce qu'on appelle un risque de coagulopathie.
Mais cela est dû à quoi, docteur ?
Alors, plusieurs choses. Ça peut être un traumatisme, un accident, un choc, une chute, une bataille, un rift qu'elle aurait connu, ou alors... Le plus essentiel, c'est souvent des hypertensions, la pré-éclampsie. Ça veut dire que cette dame ignorait ou sait qu'elle est hypertendue et malheureusement, elle a eu un pic qu'elle n'a pas su déceler et à ce moment-là, elle pourrait avoir. Donc, ça se passe vraiment, comme on dit, dans un ciel serein. Si on sait qu'il y a de l'hypertension, on rallie directement ce décollement avec l'hypertension. Mais si, figurez-vous, il n'y a pas d'hypertension, la dame vient, vous ne comprenez rien, ben vous êtes perdu un peu dans le diagnostic, alors il faudra un bon examen pour pouvoir se rassurer avant même que l'échographie s'efface. Alors, pour le placenta previa, là, c'est assez facile, on va dire, si c'est une dame qui a eu à faire son échographie préalable. Parce que s'il y a une échographie qui a testé déjà que le placenta était bas inséré, c'est ça le placenta previa, automatiquement, on comprend que le saignement viendrait de ces placentas qui est au-devant de la présentation du bébé et donc le saignement pourrait s'expliquer plus facilement. Alors en termes de coloration, parfois pour le DPPNI on a du sang noirâtre et pour le placenta previa c'est du sang rouge vif, donc c'est vraiment un saignement actif et qui permet déjà de savoir qu'on est en présence d'un placenta previa ou d'un placenta bas inséré. Et pour finir, il a parlé de la délivrance, il parlait des 5 minutes, non. La délivrance, on est jusqu'à 45 minutes d'accalmie, ça permet à ce que l'on fasse des réparations des parties molles, épisiotomie, colle et tout ce que vous voulez. Et entre-temps, il y a une perfusion qui coule, des dispositions qui sont prises et mises en place, le dosage de l'hémoglobine pour être sûr qu'on n'a pas perdu trop de sang. Et bref, il y a déjà des dispositions et en amont, on a ce qu'on appelle la GADPA, la gestion active de la troisième phase d'accouchement. Parce que cette troisième phase, justement, c'est cette délivrance. Et donc, les dispositions sont normalement prises quand on est vraiment dans une salle de naissance où les choses ont été correctement faites et les personnes ont été formées. Et donc, elles le savent que c'est tel quel. Voilà, je pense que pas de suivi, recadrage dans la prise en charge. Bon, je pense que j'ai répondu aux questions de.
Mais il a donné des astuces hein, aussi hein, pour les femmes. On travaille, tapoter l'abdomen. Est-ce que les femmes ont ces informations qui peuvent aussi faciliter
ça,
les choses
je vous disais que la matrone, comme il appelle, ou la sage-femme, considère la femme en travail comme son enfant, en fait, à un moment donné. Donc, il y a un peu ce maternalisme. Et dans le maternalisme, il va lui dire, justement, mais écarte tes jambes, sinon tu perds ton bébé. Et parfois, on l'écarte quand même, c'est vraiment écarté avec une force. Et cette force peut aller avec des petits tapotements. C'est juste pour un peu la réveiller, la rappeler. Figurez-vous quand même, la femme est en train de perdre un peu connaissance. Elle a des gifles, elle a des bonnes baffes qui la réveillent. C'est des stimuli. Ça n'a rien à voir avec une tape comme si vraiment j'agressais pour lui faire mal. Non, ben, ça va lui faire mal, mais c'est un mal qui va passer au regard de la douleur d'accouchement qui, on va dire, est une des douleurs considérées comme les plus fortes que si l'on donne cette même douleur à un homme, et ben, il tombe en syncope.
On va prendre Jeannot Louembwe qui nous revient dans cette deuxième partie de l'émission. Il appelle depuis le Lualaba dans le Haut-Katanga. Bonjour Jeannot Louembwe.
Je vous salue, madame, je vous salue l'invité, le Lualaba, c'est au Lualaba, en Colosie, au Lualaba, c'est la province, c'est pas au Haut-Katanga.
Ah, d'accord. Merci d'avoir corrigé.
Je vais d'abord dire que cette émission est très importante. Merci de faire fait sur le thème. Parce qu'elle concerne autant les hommes que les femmes, ou autant les femmes que les hommes. Car aucune femme ne s'en va s'accoucher sans qu'elle n'ait été mise enceinte par un homme. Ça concerne les deux, en fait. Voilà, nous avons l'intérêt à appeler pour poser des questions. Je vais poser une question. J'étais dans les années 2019-2020, nous étions en train de prester avec, nous étions à 4 pour les comptes d'une entreprise. Et du coup, un motard débarque avec une femme perdant les jeux. On voyait déjà tous les liquides qui coulaient, comme ça, elle était en panique. Oh, aidez-moi. Personnellement, j'avais envie d'aider, mais par où commencer? Quoi faire? Alors, je me suis posé la question. Vu qu'on ne sait jamais, comment se comporter vis-à-vis d'une femme qui, étant peut-être bien de l'hôpital, se trouvant qu'avec son mari, voulant s'accoucher? Comment se comporter vis-à-vis de ça? Parce qu'il ne faut pas quand même paniquer. Hein, comme c'était le cas, parce que j'étais en plein air, j'étais dans un quartier chaud, eh bien, aidez-moi. On pouvait aider mes parents, comment c'est. Alors, on peut avoir une petite notion, peut-être peut arriver pendant la nuit, comment se comporter pour que l'enfant ne soit pas perdu, la maman non plus. Voilà ma petite question.
Merci beaucoup, Jeannot Louembwe.
Une précision, est-ce que lui, il est à l'hôpital ou...
Dans la rue, vous croisez un couple avec une femme qui doit se rendre à l'hôpital et vous êtes loin de l'hôpital. Quelle attitude afficher?
Alors, le premier geste, c'est déjà rassurer et ne pas paniquer. Parce que si vous paniquez, le couple est paniqué, vous paniquez, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que essayez de voir autour de vous quel est le centre le plus proche. Je dis toujours à toutes les femmes, même si vous avez suivi vos consultations à 10 kilomètres de chez vous, quand il y a une urgence, commencez par le centre le plus proche. Alors ça, c'est vraiment un conseil à donner à toutes les femmes. Les femmes que les médecins suivent ne sont pas leur propriété privée. Une femme qui vient vous voir une fois, même si vous vous familiarisez au bout de 30, 40 fois de visite, mais une fois qu'elle a un problème, elle est la malade du médecin vers lequel elle s'oriente ou vers le centre vers lequel elle se retrouve. Pourquoi? Parce que ce centre aura pour rôle de stabiliser les choses. Donc tout va commencer par ce qu'on appelle une anamnèse. Une bonne anamnèse, ça veut dire un examen clinique avant cela, ça veut dire un questionnaire. Si la femme est consciente, elle va répondre. Si elle ne peut pas, ça veut dire que la personne qui l'accompagne va le faire, ça sera une hétéro-anamnèse. Ça permettra de circonscrire les problèmes, parce qu'une femme qui perd le zoo, vous ne savez pas, est-ce que c'est une grossesse qui est à terme, est-ce que c'est une grossesse qui est déjà qui est encore au début, et donc ça serait une menace d'avortement, ou alors une menace d'accouchement prématuré. Mais si c'est à terme, bah ok, ça va. Mais maintenant, il faudra faire l'évaluation. Est-ce que l'on est déjà en phase active de ce travail? Parce que si on est en phase active, eh ben, il faudra planter les décors. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que vous avez les mains nues. Mais maintenant, est-ce que tout le monde a des gants à proximité? Je ne pense pas.
Non.
Donc, il faudrait absolument s'assurer d'avoir un centre à côté. Alors, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous l'avons vu, même dans la ville de Kinshasa, il y a des dames qui s'accouchent à domicile, qui s'accouchent dans la rue. À ce moment-là, faites ce que vous pouvez faire. Essayez de trouver du linge propre. C'est, normalement, les femmes enceintes en fin de grossesse, comme je disais, on leur demande d'avoir un petit kit. Dans les kits, il pourrait y avoir une petite couche, un pagne propre, une robe de nuit, tout ce que vous voulez. Essayez d'envelopper ce bébé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire? C'est par exemple tenter d'enlever le placenta. Ça, ce n'est pas recommandé. Il faudrait juste laisser que l'enfant y sort, tenter d'avoir un petit nœud ou un fil avec un fil, faire un nœud entre le cordon, entre le bébé et la maman, donc au niveau du cordon, et le reste, vous vous dirigez vers le centre le plus proche pour la suite. Donc, ce sont les B.A.B.A. que l'on peut faire, donc je ne vois pas d'autres recommandations. Et l'asepsie, se laver les mains avec l'eau courante si disponible, et du savon, voilà.
Alors, une femme qui a fait un déni de grossesse, comment est-elle prise en charge? C'est une question d'un auditeur, docteur.
Alors, c'est une excellente question parce que, vous savez, une femme qui n'a pas été bien gérée pendant son travail pourrait effectivement faire ce qu'on appelle une psychose puerpérale. C'est-à-dire un traumatisme qui va aller au-delà de traumatisme physique, qui va l'atteindre psychologiquement et arriver même à ne pas accepter son bébé. On a malheureusement eu des cas malheureux comme ça où la mère s'est prise à son bébé et l'a tué, même l'étranglé par exemple. Et donc à ce moment-là, le cas devient partagé avec les neuropsychiatres. Donc au début, bien sûr, on va essayer juste de faire cette psychothérapie. Et si ça ne marche pas au-delà, on va commencer déjà par faire une sédation parce que peut-être ça demande juste un bon repos de la dame. Mais au-delà, alors on devra demander au neuropsychiatre de pouvoir le prendre en charge. Donc, elle peut même être internée pendant un moment pour pouvoir stabiliser, parler et trouver quel serait vraiment l'élément déclencheur de cet état-là. Et pour la plupart de cas, ça marche bien, mais pour d'autres, le blocage reste jusqu'au refus de retomber enceinte, par exemple.
Emina Mwanda nous appelle depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu. Bonjour. Est-ce qu'Emina Mwanda est toujours en ligne? Apparemment, non. Je rappelle notre numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent participer à cette émission. 0825 42 11 547. 0825 42 11 547. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Accouchement, que doit savoir une femme enceinte avant d'arriver en salle de travail? C'est le sujet que nous abordons avec Dr Yolande Capinde, gynécologue obstétricienne, secrétaire générale dans plusieurs sociétés savantes nationales et internationales, publiques ainsi que privées. Alors, docteur, quelles sont les complications les plus fréquentes pendant l'accouchement? Comment prévenir ces complications?
Alors, les complications directes, ça serait une rupture utérine, par exemple. Ça veut dire que pendant le travail, qui a été très intense, ou qu'on a mal évalué le poids du bébé, le volume du bébé, on va dire, on a une rupture utérine. Ça, c'est une complication catastrophique qui peut te faire perdre ce bébé et entraîner une hémorragie qui pourrait emporter la mère si la prise en charge n'est pas correctement faite. L'autre complication, ça serait, on a dit ici, les hémorragies que l'on pourrait rencontrer en fin de grossesse, et cela pourrait arriver pendant le travail. Donc tout évoluait bien, la dilatation est bien avancée, et bien la dame fait son décollement sur la table d'accouchement. Alors, une des complications également que l'on retrouve, ce sont les éclampsies. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de travailler tout à fait calmement, la dame se met à convulser. Et donc, on n'a pas fini l'accouchement, la dame se met à convulser, tout doit être mis en place pour pouvoir la stabiliser d'abord et sortir ce bébé ou l'opérer alors au moment. Donc, ça va vraiment très vite. Alors, imaginez que vous êtes dans une salle de naissance qui n'a pas de salle d'opération à ce moment-là. Donc, il faudrait toujours, j'ai parlé de ce professionnalisme, le calme qui doit marquer les personnes qui prennent en charge, savoir quels sont les éléments de réanimation que l'on prend à ce moment-là avant de pouvoir référer la personne à temps. Parce qu'on a toujours parlé de retard de transfert, retard de prise en charge, retard, et ce retard conduit à la mort malheureusement et ça augmente le taux de décès maternel. Donc, il faudrait que les formations se fassent encore plus pour pouvoir faire comprendre quels sont ces signes, on dit, de danger, qui montrent qu'à ce moment-là, il faudrait changer de la façon de prise en charge. Alors, ce que je disais quand je parlais de travail, par exemple, actif, il y a un élément très qui nous aide beaucoup, c'est le cervicogramme. Donc, il y a un document que l'on va tracer qui permet de vous dire si vous êtes dans la zone rouge ou pas. Est-ce qu'il faudrait maintenant changer le fusil d'épaule? Parce qu'on peut dire, ok, on va accoucher normalement, on va même dormir, on attend l'accouchement, parce que l'accouchement est tout à fait physiologique. Hein. Vous pouvez laisser une femme enfermée en prison, tout ce que vous voulez, elle va s'accoucher sans problème. Mais bien sûr, on va aider pour couper le cordon et tout ça. Alors, dès lors que vous avez franchi une zone rouge, vous devez agir autrement. Donc, vous parlez d'un accouchement normal et voilà, vous décidez autrement. C'est une complication que vous allez détecter grâce à cette surveillance-là. Mais aussi, on peut arriver aux déchirures de parties molles. On a une dame qui a poussé trop vite. Elle déchire son col. Il faudra pouvoir repérer que le col a été déchiré. Elle déchire le couloir. Je peux parler, je pense, le vagin et le déchire, et même le périnée, eh ben, il faut savoir réparer tous ces éléments-là. Ce sont des complications qu'on rencontre. Et ça, nous avons parlé de complications maternelles, mais il y a des complications aussi d'ordre fœtal. Il peut arriver que lors de votre expulsion et que vous avez une difficulté, que vous cassez le bras de l'épaule ou le bras de l'enfant. Donc, ça veut dire que les formations sont faites pour pouvoir être sûr de diriger les accouchements difficiles comme les accouchements faciles, en sachant quelles sont les différents les différentes méthodes qui doivent être appliquées pour s'aider de cela.
Parlons de la douleur pendant l'accouchement, docteur. Comment les femmes peuvent gérer ça?
Alors, la douleur pendant l'accouchement, les femmes les gèrent d'une façon particulière l'une des l'autre. Vous savez que le seuil de douleur est différent d'une personne à une autre. Ça veut dire qu'une personne n'est pas peut-être supporter une piqûre de moustique, mais une autre va supporter une claque impossible. Donc bref, la douleur, déjà qu'on a du mal à le quantifier, comme on dit, on demande par exemple de nous dire de 1 à 10 quel pourrait être le seuil de douleur, mais malheureusement en salle de travail on n'apporte pas beaucoup de traitements pour calmer la douleur. Il n'y a pas de traitement.
Juste la gérer.
Il faut gérer cette douleur, parce que cette douleur justement c'est celle-là qui fait que l'on aboutisse au processus. Maintenant, attention, il y a des douleurs qui peuvent traduire un problème plus grave. Donc, il faut s'assurer que cette douleur est réellement une douleur d'accouchement. Est-ce que cela demande qu'on puisse atténuer, on va dire, légèrement, par exemple, avec un antispasmodique? Ça veut dire donner un traitement qui va réduire un peu le rythme contractile. Est-ce qu'il faudra ce traitement-là ou pas? Normalement et logiquement, aujourd'hui, on dit laisser évoluer les travails dans son processus. Donc, ne donnez pas des antidouleurs, ne donnez pas des antispasmodiques, laissez les travails s'il n'y a pas d'entrave, si la femme à ses paramètres vitaux très bons. Si le bébé se comporte très bien, et ben vous attendez l'accouchement.
Voilà. Et face à cette douleur, justement, est-ce qu'une femme peut refuser certains gestes médicaux pendant l'accouchement?
Tout à fait. Une femme qui ne comprend pas quel est le sens de ce qui se passe, va refuser. Mais ce n'est pas un refus, comme on dit, volontaire. C'est un refus parce qu'elle ne comprend pas que cette douleur, elle est exagérée. C'est comme ça que j'ai parlé de psychologie verbale. Donc, il faudrait vraiment avoir des personnes qui ont été formées pour arriver à convaincre cette femme de l'importance de sa prise en charge à ce moment-là et de l'importance de cette douleur pour son suivi. Et c'est comme ça qu'il faudrait, avec elle, arriver à un consentement éclairé. Ce qu'on oublie aujourd'hui, à notre niveau, c'est viens, monte et je fais. Mais ailleurs, c'est je vais faire ceci. Est-ce que vous accordez que je le fasse? Je pourrais à un moment donné faire cela. Est-ce que vous le permettez? Et vous aurez à ce moment-là quelque chose comme une paperasse de 12 consentements, documents de consentement, où la dame devra signer sur tous ces documents-là. Donc vous imaginez, si on doit passer dans une situation comme ça, comment ça va être? Non. On peut très rapidement essayer de dire voilà ce qui pourrait se passer, voilà ce qu'on va faire. Si vous ne le faites pas, vous avez le risque de. Et bien, si vous avez compris cela, donc on peut continuer. Et comme je disais aussi, il peut arriver que la personne soit pas du tout d'accord avec ce processus.
Et si elle ne coopère pas?
Elle ne coopère pas du tout. Eh bien, elle vous dit, je ne veux pas. Vous notifiez. Nous, on aime vraiment écrire.
Qu'est-ce
vous
que vous faites
vous
ce moment-là?
Vous notifiez, et dans mes cours de médecine, il a été dit également que le transfert est un traitement. Mmh. Eh ben, si moi, à mon niveau, que je ne suis pas capable de gérer ce problème et que ce problème vraiment me dépasse à tout niveau et que je n'ai même pas un psychologue ou un psychothérapeute dans les alentours, mmh. eh ben, je fais ce qu'on appelle un transfert, une référence à quelqu'un que je pense être plus compétente qui pourrait prendre la personne en charge.
Mmh. Voilà. Et cela arrive souvent hein, avec les primipares aussi.
Mais non, bah, je ne pense pas que ça arrive souvent, ça arrive parfois. Dieu merci, du moins celles que nous avons eu à gérer, nous terminons bien avec ces grossesses, ce genre de situations. Mmh. Et ça devient juste une belle histoire à raconter de ce qui s'est passé dans la salle de travail. Mmh. Et souvent d'ailleurs, ce qui se passe dans la salle de travail reste dans la salle de travail comme ce qui se passerait à Las Vegas.
Voilà. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que si toutes les femmes étaient bien préparées à l'accouchement, cela réduirait significativement les complications et surtout les tensions en salle de travail.
Je vais vous rassurer parce que vous arrivez à un point aujourd'hui où on dit réduction de la mortalité maternelle mmh. et néonatale. Effectivement, si l'éducation à la base est déjà bien faite, si les préparations sont déjà en place, si tout ce qu'il faut et sur place. Ça veut dire que si les personnes qui prennent en charge ces dames ont tous les moyens autour d'elles pour pouvoir prendre en charge correctement ces femmes, eh ben cette réduction se serait faite. Mmh. Parce que là, il y aurait le respect. C'est un respect mutuel. Hein. Mmh. La femme, elle vient juste pour ses soins. Vous êtes des prestataires, vous n'attendez que cela. C'est comme vos clients, vous venez, vous partagez et puis elles repartent. Mmh. Ça veut dire si tout est mis en place correctement et comme disait Monsieur Mobowai, si les gens sont payés correctement, mmh. eh ben les choses se feront vraiment des meilleures conditions. Mmh. Pourquoi l'on dit que quand l'on est en privé, que les choses se passent mieux parfois que quand l'on est en public? C'est parfois peut-être parce que les conditions en privé mmh. sont assez différentes que des conditions en public. Mmh. Mais je pense aussi qu'il y ait question d'une conscience. Nous avons fait un serment d'aider, c'est un apostolat, c'est le choix que nous avons fait d'aider les autres. Donc, à un moment donné, nous faisons ce que nous pouvons, mais si nous n'avons que nos mains et notre tête pour le faire, ce n'est pas toujours suffisant. Nous avons besoin des outils pour pouvoir réaliser et faire correctement ce travail-là.
Voilà. Il y a M. Jeannot Louembwe qui aimerait intervenir encore. Il dit ne pas être satisfait de la réponse. Mmh. Si la réalisation nous le permet, apparemment... Non, hein, on peut plus prendre des auditeurs en ligne parce que on arrive vraiment à la fin de cette émission. On a parlé de l'accouchement, que doit savoir une femme enceinte avant d'arriver en salle de travail. Et nous avons parlé avec le docteur Yolande Capinde, qui est gynécologue, obstétricienne et secrétaire générale dans plusieurs sociétés savantes nationales, internationales, dans des structures privées ainsi que dans des publics. Merci docteur Yolande de nous avoir fait l'honneur de venir en blouse blanche, ça veut dire qu'elle avait interrompu les consultations, les interventions pour répondre à nos questions et puis elle va aller poursuivre son travail. Merci de nous avoir fait cet honneur. Merci et à très bientôt. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir posé vos questions. À très bientôt et restez à l'écoute des programmes de la fréquence de la paix.